Je remercie Jean-Noël Robert de m'avoir fait l'amitié de m'associer à cette manifestation, d'autant plus que ce que j'ai à dire, disons, concerne assez largement le sujet qui nous occupe, mais d'un point de vue peut-être un petit peu latéral, parce que je vais principalement, donc ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est plutôt la situation de multilinguisme à Samarcande, à la période qu'on a appelée l'âge d'or, 10e, 11e siècle. Pourquoi Samarcande? Parce que c'est l'endroit que je connais le moins mal en Asie centrale, étant donné que j'y travaille depuis 30 ans. Donc une situation de multilinguisme, mais avec effectivement... de manière d'ailleurs un petit peu inattendue, ça a surgi en réalité par des découvertes assez récentes, le maintien à une époque qu'on ne pensait pas aussi tardive de deux langues disons de prestige, qui sont l'une le sogdien écrit, l'autre le syriaque, le maintien qui s'est appuyé sur les fonctions religieuses de ces langues, le sogdien écrit au service des manichéens et le syriaque au service des chrétiens nestoriens. Alors, bon, quand on dit Samarcande, 10e, 11e siècle, tout de suite, par un réflexe pavlovien, on va penser à Omar Khayyam, voilà, les grandes heures de la poésie persane. Et immédiatement, on arrive dans l'illusoire, parce que, pour deux raisons, il est nullement certain qu'Omar Khayyam ait vécu à un moment quelconque de sa vie à Samarcande. Alors, tout ce qu'on peut écrire sur sa biographie est très largement légendaire. Il y a même des extrémistes pour lesquels j'ai une petite sympathie, qui pensent que le Omar Khayyam astronome et le Omar Khayyam mathématicien et le Omar Khayyam poète ne sont pas le même homme. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut plus dire maintenant. Bon. Et puis, par ailleurs, à cette époque, donc à l'époque de Omar Khayyam, le 11e siècle, à Samarcande, ni les langues littéraires, ni même d'une certaine manière la poésie, ne se réduisent au persan. Alors, la situation qu'on attendrait normalement dans l'état, disons, acquis des connaissances pour cette période, c'est une coexistence entre l'arabe, le persan, et troisième élément, le vernaculaire local, en l'occurrence une survivance du sogdien. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. La complication est venue, d'une part, de la progression lente mais discrète de l'élément turcophone, et d'autre part, de la situation religieuse locale, situation de grande coexistence et, je dirais, de grande tolérance, qui a introduit, ou plutôt maintenu, deux autres composantes, d'une part le sogdien littéraire et d'autre part le syriaque. Alors, bon, quelques mots pour commencer sur la coexistence de l'arabe et du persan. De ce point de vue-là, bon, Samarcande au Xe, XIe siècle présente la situation classique de la coexistence de ces deux langues dans le monde iranien de cette époque. C'est un partage où... l'arabe est, disons, tendanciellement en recul. Son domaine privilégié va peu à peu se trouver réduit à la grande prose et puis finalement à la religion. En face, il y a le persan. Alors là, tout de suite, on arrive à un apparent paradoxe. À l'époque pré-islamique, ce qu'on parlait à Samarcande, ça n'était pas le persan, c'était le sogdien. Alors, il se trouve que ce sont dans... la renaissance du persan littéraire, et également du persan parlé, dans, au 9e, 10e siècle, s'est produite, non pas en Iran même au départ, mais dans les régions les plus orientales du califat. C'est-à-dire des régions où le Pélévi, ancêtre du persan, n'avait pas été parlé, ou parlé par des minorités immigrées, mais très réduites. C'est là que le persan ressuscite, au 9e, 10e siècle, en grande partie sous l'impulsion, avec l'encouragement de la dynastie locale des Samanides, qui s'émancipe du califat, et en absorbant une masse considérable de vocabulaire arabe. Alors, en quelques générations, le persan devient la principale langue des villes de la Transoxiane. Transoxiane, c'est-à-dire au-delà de l'Oxus, disons la partie moyenne de l'Ouzbékistan actuel, la vallée du Zerafshan, Samarcande, Boukhara. Il se diffuse, pense-t-on, principalement à partir de deux milieux. Le milieu des dignitaires et des scribes de la cour, qui l'ont adopté comme langue de communication, d'où le nom sous lequel il est connu et reste connu dans ces régions, c'est-à-dire non pas le farsi, mais le dari, la langue de la cour, qui désigne encore aujourd'hui spécifiquement la variante orientale du persan littéraire. Et puis un autre milieu qui a pu être porteur de l'arrivée de l'imposition du persan dans ces zones, c'est probablement les garnisons. À la fin de l'époque omayyade, nous savons que la garnison dite arabe de Samarcande comprenait 12 000 hommes, familles et esclaves non comptés, qui devaient occuper à peu près la moitié du territoire urbain intramuros. Alors, ces garnisons, on le sait, venaient d'Irak. Et en réalité, devait comprendre une bonne proportion d'éléments plus iranophones qu'arabophones. Alors, c'est sans doute un des éléments qui explique ce succès remarquable du persan en quelques générations. Des soldats ont pu venir aussi de la garnison de Merv. Et Merv a été un des creusets de la renaissance du persan. Déjà à l'époque sassanide, c'est une zone de garnison du front oriental, et ce qui explique la disparition progressive de la langue, de la variante locale des langues iraniennes, le parthe, au profit du pélévi. Et c'est Merv est probablement un des endroits où s'est imposé peu à peu ce qu'on appelle le néo-persan. Mais bon, Samarcande n'est pas à l'époque samanide la principale capitale. La principale capitale, c'est Boukhara. Donc, de ce fait, dans la Nisba Samarcandi figure assez peu dans le répertoire des écrivains fameux de l'époque. Je prends quelques. Roudaki, disons, vénéré comme le père fondateur de la poésie persane, est en fait originaire d'un village du haut Zerafshan. Alors, les Tadjiks disent que c'est au Tadjikistan, ils ont même trouvé sa tombe, disent-ils. J'y suis allé d'ailleurs, c'est pas extrêmement convaincant. Les Ouzbeks disent que c'est en Ouzbékistan, n'est-ce pas ? Dans les encyclopédies soviétiques, il y avait l'encyclopédie de l'Ouzbékistan, il y avait Roudaki, le grand poète ouzbek. Dans les encyclopédies du Tadjikistan, il y avait Roudaki, le grand poète tadjik. Je pense qu'il. Ça leur aurait beaucoup fait rire. Mais il n'a pas fait sa carrière à Samarcande. Il a fait sa carrière à la cour de Boukhara. À côté de cela, les sciences profanes à cette époque continuent à employer l'arabe. En fait, le basculement vers l'emploi du persan dans les sciences profanes va se produire en réalité plutôt au XIIe siècle dans le milieu de la cour des sultans du Khwarezm à Urgench. Et sous forme non pas d'ouvrages véritablement de première main, mais d'encyclopédies de vulgarisation. Avicenne comme Biruni étaient des iranophones, le canon d'Avicenne et toute l'œuvre de Biruni sont en arabe. D'ailleurs, Biruni a théorisé cela. Biruni est originaire du Khwarezm, la région de la mer d'Aral. C'est un patriote khorasmien, il s'affirme comme tel. Il a vécu, chaque fois qu'il a pu, il est revenu au Khwarezm. Il s'est efforcé, notamment dans son livre sur la chronologie des anciennes nations, de sauver tout ce qu'il pouvait sauver de l'un des anciennes traditions religieuses du Khwarezm. Mais il écrit très explicitement, si on veut penser clairement comme faisaient les anciens Grecs, et s'exprimer pour être lu, ben c'est l'arabe qu'il faut employer. Bien. Le genre historique à cette époque n'a pas encore basculé au persan, puisque il y a un exemple qui est la traduction, l'adaptation persane de l'histoire de Tabari par Balami. Effectivement, c'est le premier exemple de traité d'ouvrage historique écrit en persan à la fin du Xe siècle. Mais par exemple, l'histoire de Boukhara, qui est l'une des sources principales sur l'histoire préislamique de la ville, On la lit aujourd'hui dans un abrégé persan, mais plus tardif, par Nardshahi. À l'origine, elle était en arabe. Elle était présentée à l'émir de Samanide en 943. Encore au XIIe siècle, on a un personnage très intéressant, très représentatif de ces va-et-vient linguistiques entre les deux langues de prestige. C'est le polygraphe Nizami Haroudi, qui lui est de Samarcande. Alors, on lui doit le livre des sept vizirs, qui est en fait, disons, une branche parallèle de certains récits qu'on trouve dans les Mille et Une Nuits. Alors, c'est un rifacimento en vers persan d'un ouvrage en prose persane qui était lui-même la traduction d'un livre en arabe. Et puis, à côté de ça, on a gardé de lui les buts de la politique dans la situation où s'exerce le commandement. Livre où il recompose lui-même, au XIIe siècle à Samarcande, il recompose de manière originale des sentences en arabe et il les commente en persan. Donc on voit que cette histoire est très loin d'être simple et univoque. Bien. Alors, j'ai donc dit situation classique de coexistence entre l'arabe, langue des vainqueurs, et le persan, futur vainqueur sur la scène. Mais que devient alors le Sogdien ? Alors, on a un témoignage précis, c'est le géographe Moukraddassi, vers 960, qui signale qu'à Samarcande, le Sogdien parlé est éteint. Il le dit clairement, il cite des formes locales de langue de Samarcande, mais ce n'est pas du Sogdien, ce sont des formes dialectales persanes. Il explique lui-même comme une curiosité. Oui, il y a un imam bien connu qui parle encore couramment le sogdien. Mais c'est presque une bête de foire. Hein, voilà. Un exemple bien caractéristique de cela, c'est un renseignement que nous donne le géographe Imra Okral sur le fait que, à son époque, au Xe siècle, il existait à la porte sud de la ville de Samarcande une inscription sur plaque de fer, qu'on n'arrivait pas à lire. Et en fait, ceux qui s'y essayaient, ils reconnaissaient des caractères himyaritiques, donc de l'ancien arabe du Sud. En réalité, elle n'était sûrement pas en caractère himyaritique, et maintenant on sait à quoi elle devait ressembler. C'est à ça. Parce qu'on a trouvé, il y a quelques années, je les ai donc publiées avec Nicolas Sims-Williams, des inscriptions en sogdien très archaïque, probablement du IIe siècle de notre ère, dans une petite ville sogdienne du Kazakhstan, Kultobé, et ces inscriptions probablement se trouvaient aux portes. Et ça devait pas être un cas unique. Des inscriptions comme celle-là, il devait y en avoir aux portes des grandes villes sogdiennes à la même époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Xe siècle à Samarcande, on ne sait plus les lire. Je pense qu'en fait, même au VIIe siècle, ce n'était pas évident. Parce que c'est un sogdien tout de même vraiment très archaïque. Les lettres sont encore proches de l'alphabet araméen et avec des idiosyncrasies très particulières. La langue elle-même est archaïque. Il y a beaucoup plus, Jean-Noël parlait tout à l'heure, des idéogrammes araméens dans les langues moyennes iraniennes, notamment en Pélévi. Il y en a aussi en sogdien, il y en a moins qu'en Pélévi, mais à cette époque, il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des inscriptions qu'on peut pratiquement lire en araméen. Voilà. Donc déjà, au Xe siècle, on lit ça comme de l'himyaritique. Voilà. On y voit la preuve de ce que la ville de Samarcande, n'est-ce pas, comme chacun peut comprendre, a été fondée autrefois par la reine Thamar, venue du sud arabique. Tout ça est instrumentalisé dans le cadre des luttes de prestige entre sud et nord arabique. Ça n'a plus rien à voir avec la connaissance du sogdien. Alors, Moukaddassi dit aussi tout de même que, le sogdien, enfin, il dit la langue, le dialecte local, on comprend là qu'il s'agit du sogdien, survit dans des campagnes autour de Samarcande et notamment autour de Bukhara. Alors, on a pensé que tout ça s'était éteint, peut-être au XIe siècle, peut-être à l'invasion mongole, Mais assez récemment, notre collègue de Saint-Pétersbourg, Pavel Lourier, que j'ai d'ailleurs fait inviter au collège il y a quelques années, qui a fait sa thèse sur la toponymie sogdienne, pense avoir montré par l'argument de la microtoponymie que le sogdien devait survivre dans certaines parties nord-est de l'oasis de Boukhara jusqu'au XVIe siècle. Parce qu'on voit qu'il y a des éléments, des composants toponymiques sogdiens qui restent productifs dans la formation de nouveaux toponymes à cette époque. Donc, extinction lente du sogdien. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, il existe une langue qui n'est pas le descendant du sogdien, mais qui vient d'un rameau qui peut-être aurait divergé vers les environs de notre ère, c'est le Yagnobi, qui a encore des locuteurs dans la vallée du Yagnob, au Tadjikistan. Le grand philologue Lifshitz pensait que le Yagnobi était en fait le dernier descendant d'un rameau apparenté au sogdien, qui est mentionné par les auteurs arabes, qui aurait été l'Oustrouchani, la langue de la sogdiane du Nord-Est. Je mentionne cela parce que l'Oustrouchana m'est particulièrement cher depuis le colloque que nous avons organisé ici sur cette région petite, mais historiquement très importante. Voilà. Alors, donc voilà le tableau arabe, persan et le sogdien, tel qu'on le lit là, beaucoup moins présent, beaucoup moins vigoureux qu'on ne pourrait le croire. Bien, mais alors, à ce tableau est compliqué par la présence des langues religieuses à cette époque. Alors, il y a trois cas, il y a l'arabe, le sogdien et le syriaque. Alors, pour l'arabe, bon, c'est évidemment le cas. L'arabe est, entre autres choses, langue de prestige religieuse. Mais, comme je l'ai dit, encore au XIe siècle et même au XIIe siècle à Samarcande, il n'est pas encore confiné dans ce rôle. Bien. Alors, le sogdien, des hypothèses récentes qui sont dues à notre collègue japonais Yutaka Yoshida de l'université de Kyoto, que j'ai également fait venir au collège et que je pense faire revenir dans l'avenir parce que c'est vraiment... On lui doit des découvertes absolument remarquables sur la langue, la littérature sogdienne et récemment sur l'iconographie manichéenne. Voilà. Et c'est à ça que je vais en venir. Bon, c'est à lui qu'on doit la redécouverte de l'art manichéen qui a survécu en Chine du Sud jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Yoshida récemment a proposé l'idée que le sogdien littéraire se serait maintenu dans ce rôle à Samarcande jusqu'au XIe siècle. Alors que jusqu'à présent, ça va être probablement l'un des sujets de la communication de Nicolas, on pensait que ce conservatoire ultime du sogdien littéraire était plutôt à Tourfan. Et Yoshida s'est proposé de démontrer que c'était aussi à Samarcande. Alors, un petit rappel, donc, ce sogdien littéraire, sa niche écologique serait été la communauté manichéenne. Et seulement la communauté manichéenne, puisqu'on voit que dans tous les autres milieux, sauf des milieux ruraux écartés, il est éteint à cette époque. Alors, un petit rappel historique. Quand les manichéens sont-ils arrivés à Samarcande? Alors, d'après les traditions enregistrés ultérieurement, ils auraient franchi la Moudaria dès la fin du IIIe siècle, dans la génération qui suit Mani. Au VIIe siècle, nous savons de manière assurée qu'ils prennent pied en Chine, en partie à partir d'une région qui est au sud de la Sogdiane, le Tokharestan, en Bactriane. Alors il y a des hypothèses sur une arrivée plus précoce du manichéisme en Chine dès le VIe siècle, mais c'est discuté. En tout cas, pour Samarcande, pour la Sogdiane même, en réalité, à part cette tradition sur le franchissement de la Moudaria au IIIe siècle, on n'a aucun document sûr et aucune information textuelle avant le Xe siècle. Cette information nous vient d'une notice du bibliophile bagdadien Ibn al-Nadim, qui nous explique de manière assez détaillée que sous le calife abbasside al-Muqtadir, qui règne de 908 à 932, 500 manichéens ont fui Bagdad pour Samarcande. Ce qu'il nous raconte est assez intéressant. Le souverain samanide local, qui est un sunnite zélé, veut les persécuter. Mais le souverain des Turkuz-Oghuz, qui est en fait la façon dont les historiens arabes désignent les Ouïghours, régnant à Turfan, envoie un message à son distingué collègue de Samarcande en lui disant « Tu sais, dans mon royaume, j'ai beaucoup plus de musulmans que tu n'as de manichéens chez toi. » Et or, il se trouve que la dynastie, le manichéisme est la religion officielle de la dynastie Ouïghour. Alors, si tu t'en prends aux manichéens à Samarcande, je peux faire beaucoup de mal aux musulmans à Turfan. Et donc, l'affaire se calme. Et les manichéens sont autorisés à s'établir. Et alors, selon une tradition qui n'est pas très sûre, ils auraient un moment en fait transféré le siège suprême de l'autorité manichéenne mondiale, le successeur de Mani, l'Archégos, à Samarcande. C'est, la religion manichéenne a une pyramide extrêmement rigide et mondiale. Hein. Il y a un Archégos. Il y a 12 mojags, il y a 5, je ne sais plus combien, d'évêques, et c'est un numerus clausus, c'est un organigramme qui est mondial, ce n'est pas redupliqué. Bon. Finalement, l'Archégos, on finit par le repérer à Turfan, et là, donc, à partir du XIe siècle, on perd leurs traces. Alors, un acquis extrêmement important et nouveau des recherches récentes de Yoshida, c'est qu'il a réattribué à Samarcande des documents rédigés en souvenirs littéraires trouvés à Turfan. Avant, on les pensait soit rédigés à Turfan, soit ailleurs, mais lui me donne de bons arguments pour penser que ça vient de Samarcande et que donc le souvenir littéraire reste productif à Samarcande. Alors, il y a d'abord deux lettres privées, ce qu'on appelle les lettres manichéennes. Elles sont connues depuis longtemps. Elles avaient été éditées par Henning, puis par Zundermann, qui ne les situait pas à Samarcande, et qui les dataient d'avant 880, car elles mentionnent un schisme manichéen, le schisme de Mir et de Miklas, et qui est clos en 880. Donc, ils pensaient que ça datait d'avant. Alors, l'argument de Yoshida, c'est que non, ça doit être postérieur et qu'en fait, les noms des anciens schismatiques ont pu persister, après même la fin des schismes, comme insultes polémiques s'appliquant aux manichéens d'Irak, de la part de leurs co-religionnaires qui n'étaient pas tombés dans les schismes. Bien. Alors, il redate les lettres du Xe siècle en y reconnaissant des allusions à cette migration des manichéens chassés de Bagdad dont nous parlait Ibn al-Nadim. Et il s'agirait, alors il est question de va-et-vient entre le haut, le bas, et lui il pense qu'il s'agit d'intrigues de ces manichéens qui font en fait des va-et-vient entre Samarcande et Turfan. Or, voilà ce qu'on vient de dire, donc effectivement il y a un enjeu probable pour le transfert de l'autorité suprême du manichéisme qui était auparavant à Bagdad, et qui semble se fixer un moment à Samarcande et qui finalement se retrouvera à Turfan. Autre proposition de Yoshida, c'est que ces lettres ont été écrites à Samarcande. Son argument, c'est qu'elle mentionne un nombre considérable de noms de personnes, et aucun nom n'est ouïghour, aucun nom n'est turc. Ce sont tous des noms typiques de la strate ancienne de l'onomastique manichéenne, c'est-à-dire des noms iraniens de formation savante. Or, dans tous les documents manichéens de Turfan, se trouvent mentionnées quantité de dignitaires ouïghours. Il n'y en a pas ici. Alors, les plaignants, il s'agit, comme vous voyez, d'un texte très, très amer. Bon. Les plaignants sont des élus donc de la communauté précédemment installée à Samarcande et qui se plaignent de l'arrivée des nouveaux venus d'Irak, qui, visiblement, sème la zizanie dans la communauté. Et ces élus écrivant à Turfan, des destinataires que nous n'identifions pas, continuent à utiliser le sogdien. Alors, ce qui est très intéressant de notre point de vue, on serait donc au Xe siècle. Et le sogdien qui est utilisé dans ces lettres, c'est du sogdien courant, c'est du sogdien narratif. C'est pas du sogdien figé. Ah, vous voyez le style. Hein, les sœurs ont vu une de leurs élus prendre une houe et creuser la terre. Elles pilent les herbes et coupent sans crainte les arbres et le bois. Du point de vue manier. C'est normalement interdit aux élus manichéens, hein, puisque tous ces éléments contiennent des particules de lumière qui n'attendent que de renaître dans le ciel suprême. Donc, voilà. Nos élus ont aussi vu leurs élus laver à l'eau un couteau taché de sang. Comme nos élus se plaignaient, elles ont répondu, l'eau du puits est morte, c'est-à-dire stagnante. Donc c'est permis. Pollution très grave de l'élément aquatique. Elles éteignent le feu elles-mêmes. Comme leur chef, Mirpadar, était malade, une fille qu'ils avaient louée est entrée chez lui et en est ressortie. Ce qui a éveillé le soupçon chez nous tous. Elle a répondu aux quatre élus qui l'interrogeaient, « Je lui ai pris deux fois du sang par derrière et je le ferai encore une fois. » C'est même précisément par la porte de derrière. Alors, est-ce qu'elle lui soigne des hémorroïdes? Est-ce qu'elle lui fait des lavements? On ne peut pas vraiment... Mais enfin, de toute façon, c'est l'horreur. Bon, du point de vue des manichéens rigoureux, on a visiblement là une opposition entre des manichéens rigoristes installés depuis longtemps à Samarcande et ces exilés d'Irak qui ont une observance plus laxiste. D'ailleurs, lettre 2, « Telle est la coutume de ces Syriens sales et avares. » Enfin, Syriens, ça veut dire Irakien. Ils ont l'expérience et la pratique de la division et de la querelle, car c'est l'esprit de division qui les commande. Bien. Alors, voilà le genre de sogdien que, dans les milieux manichéens, on était encore capable d'écrire au Xe siècle à Samarcande. Alors, autre série de documents que Yoshida situe partiellement à Samarcande également, ce sont des documents un peu plus tardifs, qui les datent du début du XIe siècle, ce sont les trois lettres de Bézéclic, trouvées il y a quelques années dans le site donc manichéen et bouddhique aussi de Bézéclic dans l'oasis de Tourfan. Alors Yoshida les a publiées en chinois, et la publication anglaise est en cours de préparation, et donc il m'a fait l'amitié de m'envoyer le chapitre qu'il avait préparé pour ça, mais il se trouve qu'il en avait parlé ici à Paris, il y a une dizaine d'années, quand je l'avais fait inviter aux études avec Étienne de la Vessière, il nous avait déjà montré, fait lire son édition. Alors, ces lettres manichéennes, vous voyez tout de suite, l'une d'elles s'identifie immédiatement visuellement comme manichéenne par la présence de ces ravissantes miniatures et du symbole donc, manichéen au milieu. Ces lettres sont comme d'ailleurs les lettres privées que j'ai précédemment mentionnées, sont en écriture non pas manichéenne, qui est une écriture rigoureusement alphabétique et phonétique, mise au point pour le service de la religion manichéenne, Nicolas va en parler tout à l'heure, mais en écriture sogdienne. Mais, bon, vous voyez, c'est du sogdien cursif, pas maladroit du tout. Il s'agit pas de lettres privées, il s'agit de messages officiels qui sont envoyés au moment de la fête du Nouvel An à un personnage qu'on appelle le Mojak de l'Est. Alors, Mojak, c'est le deuxième grade de la hiérarchie manichéenne. On traduit tantôt apôtre, tantôt enseignant. Bon, apôtre parce qu'ils sont 12, non ? Ce personnage siège à Tourfan. En fait, Yoshida suggère, comme ce personnage, dans une des lettres, est appelé, en plus de Mojak, le successeur, on suppose qu'en fait, il a déjà pris le titre, c'est déjà l'archégos, c'est déjà le chef suprême de l'église manichéenne. Alors, ces lettres sont extrêmement différentes par leur contenu des précédentes, parce que ce n'est pas du tout narratif, c'est même presque totalement vide de contenu informatif. Ces lettres très longues contiennent uniquement des formules laudatives, des vœux pour les différents membres de la communauté et un rappel des services religieux qui ont été célébrés ou vont être célébrés. Quand on les lit, on se demande vraiment pourquoi elles ont été écrites. Je m'en ouvrais à Jean-Daniel Dubois qui a une hypothèse qui dit que ça devait accompagner des transferts de fonds. des mouvements bancaires qui peut-être étaient accompagnés de ces lettres très conventionnelles. Donc, eh bien, c'est un sogdien hiératique, hein, qui, rempli de formules toutes faites, qui, contrairement à la langue des lettres privées du siècle précédent, ne traduit pas forcément un usage courant de la langue. Alors, vous me direz, bah, très bien, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça a été écrit à Samarcande ? En fait, Yoshida pense que c'est le cas pour une des trois lettres, la lettre B, que voici, qui n'a pas de miniature. Parce que contrairement aux deux autres, ne mentionne aucun personnage avec un nom turco-ouïghour. Là aussi, ce serait impossible si elle avait été écrite à Turfan. Et par ailleurs, il est question de la communauté d'une ville qui s'appelle Tuzkat. Tuzkat. Kat, c'est le suffixe qu'on trouve en Kand de Samarkand, ça veut dire ville en sogdien. Tuz. Alors, on connaît une ville de ce nom. Tuz, un peu au nord de Samarcande, voilà Samarcande ici. Tuz est dans cette région qui s'appelle donc le Widar, la principauté du Widar, un petit peu au nord de Samarcande. On ne sait pas exactement où c'est, mais les géographes arabes disent que c'est là. Alors, il se trouve que pour le siège de la communauté manichéenne de Samarcande, Ibn al-Nadim nous parle d'un endroit qui peut se lire de diverses manières, parce qu'il y a la question des points diacritiques. Alors, certains éditeurs lisent Tunkath. Alors, il se trouve qu'on connaît une ville qui s'appelle Tunkath. Certains lisent Nawekath. On connaît deux villes de ce nom, même trois. Mais, difficulté, c'est que, d'après Ibn al-Nadim, il s'agit d'une ville qui serait dans le Sogd. Or, à l'époque, ce qu'on appelle le Sogd, c'est uniquement cette région-là. Or, ni Tunkath, ni Nawekath ne sont dans le Sogd. C'est plus au nord, du côté de Tashkent, ou plus au sud. Donc, l'idée de Yoshida, la proposition de Yoshida, c'est qu'en fait, il faut lire Tuzkat. Et ce serait ce lieu mentionné par Ibn al-Nadim comme le lieu de refuge de la communauté manichéenne de Samarcande, serait ce même lieu dont parle la lettre B, qui se serait trouvé à une trentaine de kilomètres au nord de Samarcande. C'est assez logique, les manichéens n'allaient pas se mettre dans la gueule du loup. Ils n'allaient pas se mettre en ville. On va voir tout à l'heure que les chrétiens, d'eux-mêmes, se sont mis un peu en dehors de la ville. Alors, voilà pour les manichéens et pour la survie qu'ils ont assurée aux sogdiens littéraires. Maintenant, il y a une autre religion qui a assuré une survie à une autre langue religieuse littéraire, le syriaque. Ce sont les chrétiens nestoriens. Alors, d'une certaine façon, la situation pour eux est parallèle à celle des manichéens. Eux aussi sont supposés être arrivés tôt. Alors, on ne sait pas exactement, il y a diverses hypothèses, divers indices sur la création de l'évêché de Samarcande. Certains pensent dès le 5e siècle, certains pensent un peu plus tard. Pour le début du 8e siècle, on a un témoignage épigraphique, c'est un exercice de dictée trouvé sur un tesson, Apengiket, pas loin de tout ça, un peu à l'est ici. C'est un exercice de dictée qui regroupe les deux premiers psaumes de la Peshitta. Donc ça montre qu'il y avait une école d'enseigner le syriaque à Samarcande. Ces chrétiens de Samarcande ne sont précisément attestés qu'au Xe siècle, à un moment où, là aussi situation parallèle avec les manichéens, ils ont vu leur rang grossir par des immigrés d'Irak. Et là, le témoignage est celui du géographe Imrokal, que je cite. On voit à Shavdar, c'est cette région du Piémont sud du Zerafshan, un monastère d'une congrégation chrétienne comprenant des cellules et des habitations confortables et plaisantes. J'y ai remarqué des chrétiens de l'Irak qui y avaient élu domicile à cause de sa bonne situation et l'avaient choisi à cause de son isolement et de sa tranquillité. Des fondations le font vivre et des fidèles viennent y faire retraite, car l'endroit est vénéré plus que les autres lieux du Sogd. Il se nomme Waskarda. On sait où c'est. Parce que le toponyme Wasgird, s'était conservé encore au XVIIe siècle. C'est ici, c'est au Piémont sud, c'est près d'une ville assez importante qui existe toujours, qui s'appelle Urgut, qui est un grand lieu de marché. Pendant quelques temps après l'indépendance de l'Ouzbékistan, un des principaux centres de production de l'opium au sud de Samarcande. Alors, il se trouve qu'on a des restes archéologiques de ces chrétiens d'Ourgout, de deux types. Dans les années 1990, a été fouillée là une église qui a un plan typique, qui obéit à un plan assez typique des églises de l'église de l'Est, hein, deux nefs avec chacune leur chœur et au milieu une sorte de plateforme surélevée, donc avec un mur de briques cuites autour et un bourrage de briques crues, donc qu'on appelle le béma. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce type de plan se retrouve assez peu dans les églises de l'église de l'Est qu'on connaît en Asie centrale, plus à l'Est, dans la région du Semirechye, au Kirghizistan actuel, où là on a beaucoup de... on en a plusieurs, on a également des pierres tombales, etc. C'est assez proche en fait de modèles connus en Irak et en Syrie du Nord. Alors, le matériel archéologique n'est pas très riche. On a trouvé quand même des croix. Hein. Et disons, ce qu'on trouve laisse penser que ce bâtiment a vécu assez longtemps. Disons, probablement, du 10e ou peut-être même avant jusqu'à l'invasion mongole du 13e siècle. Alors, était-ce l'église du monastère dont parle Imhokal ? C'est pas impossible, mais les bâtiments conventuels qui auraient pu se trouver à côté n'ont pas été retrouvés. Ce qu'on connaît, c'est dans une vallée parallèle, à 2-3 km à l'est, voilà, ici, qu'on appelle aujourd'hui un ravissant endroit, qu'on appelle la vallée des Soufis. Alors, est-ce que les Soufis ont succédé aux anachorets, aux ermites chrétiens ? Est-ce que c'est une façon d'islamiser le nom ? On les a appelés soufis, mais en fait, on savait que ça avait été des chrétiens. On ne sait pas. Mais on a... Alors, ça se présente de deux manières, les documents épigraphiques. On a toutes, on en a relevé 167 inscriptions. Alors, vous voyez les situations. C'est extrêmement discret. C'est scarifié à l'épingle. Hein. C'est tout petit. Il faut vraiment être dessus pour les voir. On en a 137 sur la falaise, et certaines de ces inscriptions sont dans des petites anfractuosités suffisantes pour qu'un homme y prie, ce que je fais ici à gauche. Voilà, c'était. Vous voyez, mon regard est dirigé vers ici, voilà une de ces inscriptions. Et dans cette petite grotte, il y a une inscription à l'encre. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des grottes d'incubation. Hein, ce sont des endroits où on faisait retraite, on méditait bien. Les inscriptions, vous voyez comment elles se présentent comme ça. Ce qu'on voit, la seule chose qu'on voit quand on arrive, ce sont des croix. Alors, il y en a une quand même qui est plus monumentale que les autres, qu'on voit bien. Alors, on voit ça. Ouh là là, ça bloque. Oui, voilà. Elle est ici, c'est celle, elle est ici. Ces inscriptions ont été signalées depuis les années 1920. Et il y avait eu des publications très partielles. Et puis finalement, dans les années 90, on les a retrouvées avec ma mission archéologique. Alors nous voici donc sur place avec l'inévitable vétéran de la guerre, arborant ses médailles. Cette inscription ici qu'on voit vraiment en arrivant, et elle se lit, alors je vous demande de me croire, elle est dans une écriture assez fleurie, et elle se lit « Moïse est dans la grâce ». Alors vous excuserez ma tentative de prononciation syriaque, « De taïboussa mouchet ». Alors, est-ce qu'il s'agit du nom d'un pèlerin, comme c'est le cas pour les autres inscriptions qu'on va voir maintenant ? C'est peut-être en fait le prophète, parce que ce serait éventuellement une évocation du prophète. Alors c'est ce que pensait Michel Tardieu, qui avait fait une première mission épigraphique dans les années 90, à notre incitation, pensait que toute cette zone était en fait une sorte de Sinaï de substitution. Voilà. C'est qu'en fait, voilà, cette falaise au soleil levant, très rougie, très. Alors, donc l'idée de l'image de Moïse serait venue spontanément à la pensée des pèlerins qui venaient ici. Le tout venant des inscriptions, donc actuellement, une édition complète va paraître dans quelques semaines dans la revue Studia Iranica par Mark Dickens, qui fait pour la première fois, disons, un siècle après qu'elles aient été signalées, a fait un relevé complet et donc il en publie 167, mais dont certaines sont réduites à quelques lettres. Et actuellement, il était temps de le faire parce qu'il y a un vandalisme accéléré. Certaines de ces inscriptions sont détachées pour être vendues, semble-t-il. On ne sait pas d'ailleurs à qui, mais hein, bon. Il y a eu des. Voilà, celle-là avait été détachée en 1936. On l'a retrouvée au musée de Samarcande. Et puis, il y a carrément du vandalisme. Donc, il était temps de les publier. Alors, elles sont très discrètes. Et d'un contenu très réduit, on trouve presque toujours le mot le pêcheur, Hayt Hatia, vous voyez un pêcheur en syriaque, voilà. Le pêcheur en syriaque, ça se dit Hayta Taya, ouais. Et c'est toujours, alors je prends quelques exemples. Puisse le pêcheur Yohanan avoir merci dans la paix. Un tel a fait la vigile. Donc ça va assez bien avec ce que je suis en train de faire sur cette photo. Un tel a fait le signe de la croix vivante. Donc, certains ont dessiné des croix. Un tel demande qu'on se souvienne de lui. Hosanna. Il y a quelques mentions de prêtres. Il y a une mention d'un interprète, Mefashkana. Mais rien qui indique spécifiquement des moines. On n'a pas, par exemple, le frère, le père, etc. Mais, ceci dit, aucun nom n'est féminin. Donc, voilà, probablement, il y avait des moines et puis probablement aussi des pèlerins. Alors, les dates. Il y a seulement deux de ces inscriptions portent des dates qui semblent lisibles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça paraît vraiment encadrer complètement la période globale d'existence de ce lieu de retraite, puisque une inscription donne 752, c'est-à-dire 30 ans après la conquête arabe, 40 ans après la vraie, et l'autre 1247, donc peu après la conquête mongole. Alors, la situation linguistique. Il n'y a rien en persan, il n'y a rien en arabe. Il y en a une en ouïghour, et tout le reste est en syriaque, sur les 167. Alors, l'onomastique, on a 50 noms de personnes sont attestés, indépendamment du nombre d'individus. La moitié, 26, sont syriaques, 10 iraniens, 8 arabes, 6 turcs. Alors, les noms arabes ont pu être apportés par ces immigrants d'Irak dont parle Ibn Rokal, mais ça peut être aussi la part normale de l'onomastique arabe en milieu iranophone. Par rapport à l'onomastique turc est présente mais limitée, ce qui est une situation inverse de ce qu'on a à la même époque et à Tourfan et dans les inscriptions funéraires du Semiretche, où il y a une communauté chrétienne très vivante a existé jusque vers 1340. C'est vraiment le syriaque qui est hégémoniaque. Pourquoi le syriaque ? Alors, il y a plusieurs explications possibles. L'impact des immigrés irakiens, les chrétiens venus d'Irak, devaient porter des noms syriaques. Mais, très probablement, un certain nombre de chrétiens locaux ont pris aussi des noms syriaques. Alors, c'est évidemment probablement le cas des moines. Quand on entrait en religion, souvent, on abandonnait son nom et on prenait un nom dans la tradition religieuse. Ça peut être aussi de simples pèlerins qui déguisent leur nom authentique sous un nom syriaque jugé plus prestigieux. Alors, on pourrait voir là le reflet, ce sont des idées qui me viennent à l'esprit, d'une forte identité syriaque qu'aurait ressentie cette église de Samarcande. Parce que cette église de Samarcande, elle a un statut très particulier. Elle a été instaurée à la fin du 8e siècle, sur décision du catholicos, donc à l'époque d'Irak, de Bagdad, comme siège, comme métropole ecclésiastique, donc pas seulement comme évêché, ce qu'elle était déjà, mais comme siège de la province ecclésiastique du Beyturkaye, la région des Turcs, la plus orientale de toutes les provinces ecclésiastiques dépendant du catholicos. Et ces sept provinces du Beyturkaye qui fournissaient les cadres de l'église, des sièges qui allaient au-delà, au-delà vers l'est. On a un exemple magnifique. C'est le personnage qu'a connu Marco Polo à Chenchang, sur Yoyangtze, Marsargis, fondateur de plusieurs églises sur place et haut dignitaire au service des Mongols. Marsargis, nous dit Marco, vient de Samarcande. Et en fait, tout ce que Marco a su sur Samarcande, c'est par Marsargis qu'il a connu en Chine. Parce que lui-même n'est jamais allé à Samarcande. On a l'impression que cette chrétienté de Samarcande s'accroche particulièrement à une identité syriaque. Alors, en même temps, on voit bien par ces inscriptions à quel point cet effort pour maintenir la langue sacrée était artificiel. La grande majorité des scripteurs n'étaient évidemment pas des locuteurs. Il y a beaucoup d'incorrections épigraphiques, de fautes d'orthographe et de fautes de syntaxe. Alors, vous me direz, dans tout ça, il y a un grand absent dans cette situation linguistique, c'est le turc. Où sont-ils, à part dans quelques noms de ces inscriptions d'Urgut? Pourtant, le turc est très présent dans l'onomastique aristocratique de la Sogdiane dès avant la conquête arabe. On a un contrat de mariage à Samarcande qui unit une aristocrate au nom sogdien et un personnage au nom et au titre turc. Dès avant, le sogdien a emprunte un vocabulaire relativement important au turc. Bien. Puis, ensuite, à partir de 999, l'arrivée au pouvoir à Samarcande et Boukhara des Karakhanides, la première dynastie turque islamisée, le turc devient la langue des dirigeants. Bon. Alors, il se trouve que ça ne se manifeste pas beaucoup à Samarcande. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'au XIe siècle sont écrites, à peu près au même moment, vers 1070, deux défenses et illustrations de la langue turque. L'une, c'est le Diwan Lughat at-Turk, compendium des dialectes turcs de Mahmoud de Kashgar, et l'autre, c'est le Kutakdu Bilik, la sagesse de la gloire royale, de Yusuf Balasarghouni. Ces traités ont été composés vers 1070, pour la cour de Kashgar, la cour karakhanide orientale. Ils ont ensuite circulé plutôt en milieu seldjoukide. On n'a pas l'impression qu'ils aient été très populaires en milieu karakhanide occidental, à Samarcande, Boukhara. Alors, un autre exemple, c'est le pavillon donc royal karakhanide fouillé par Yuri Kariev à la citadelle de Samarcande. Ce pavillon comporte des inscriptions. Il a été entièrement recouvert d'un décor peint, probablement vers 1160, peut-être un peu plus tard, au moment de la fin de la dynastie des Karakhanides. Nous espérons que dans 3 ans à Paris, vous pourrez le voir au Louvre, puisqu'il est inclus dans le projet de grande exposition sur l'Ouzbékistan. Alors, il y a deux langues représentées. L'arabe, dans des inscriptions laudatives aux propriétaires du lieu, et le persan, dans un poème à refrain qui, semble-t-il, courait tout autour de la pièce. C'est dans un décor paradisiaque avec des oiseaux, des fleurs, et on lit « Rose kam edel baroyad »« Le jour de la satisfaction du cœur arrive ». Il n'y a rien de turc, absolument rien. L'élément turc, on le perçoit dans les types physiques, idéaux de le visage du prince, tout rond, imberbe, enfin, qu'on retrouve tout à fait, qui correspond tout à fait au canon de la beauté turque, mais rien du tout du point de vue épigraphique. Il n'y a aucun indice que les Karakhanides occidentaux aient patronné les lettres turques. Et donc on note là quand même un considérable décalage chronologique entre la plus ancienne affirmation du turc littéraire, c'est-à-dire dans le milieu ouïghour de Turfan, au Xe siècle, et puis donc les ouvrages composés à Kashgar au XIe siècle, pour que des ouvrages se mettent à promouvoir la langue turque dans la Transoxiane, il faut attendre le début du XVe siècle. Ali Chernavoy, qui lui publie de véritables manifestes en faveur de la langue Jagatai turque comme langue littéraire. Rien entre les deux. Rien entre les deux. Alors, est-ce que ça veut dire donc que ces Turcs, renoncent à leur langue, s'assimilent très vite? Faut peut-être être plus nuancé. J'emprunterai une heureuse formule à Viola Allegranzi, qui a soutenu il y a quelque temps une remarquable thèse sur le décor épigraphique de Razni. Bon, dynastie Ghaznévide, c'est pareil, des Turcs iranisés. Cet extraordinaire décor épigraphique des 11e et 12e siècles est entièrement en arabe et en poésie persane. Rien en turc. Alors, elle finit par dire, les Turcs s'avancent masqués. Ils ne s'affichent pas linguistiquement dans ces régions islamiques. Ils se sont affichés avant, plus à l'est, et là, ils ne s'affichent pas. Voilà, donc j'ai voulu... Il n'y avait rien de bien original dans ce que je vous ai dit là, sauf que j'ai fait état tout de même de publications peu connues ou à paraître. J'espère vous avoir fait toucher du doigt l'extrême complexité de cette situation linguistique de Samarcande et le rôle important de la religion comme moyen de survivance de deux langues que sinon on n'aurait jamais attendues ici. Donc, le soutien littéraire d'une part et le syriaque d'autre part. Je vous remercie.